Morgan avec Léna Kadobou-Dazim, Morgan Cadignan, Morgan Cadignan, Monsieur Guillaume Moriz. Ça va?
Absolument, je suis complètement là.
C'est sûr.
Monsieur Tanguy Passureau, Monsieur Jérémy Crémy.
Salut.
Et notre invité, monsieur, il n'y a que des messieurs, Guillaume Rousseau, il y a trop de mecs. Ah, Daniel Morin, t'es là.
Ah oui,
je t'avais pas vu.
Monsieur, c'est vrai qu'on ne me voit pas.
T'étais pas là, t'étais là, je ne sais plus quand t'es là, quand t'es pas là.
Monsieur Daniel.
Il y a trop de. Les filles, il va falloir que vous preniez le pouvoir un peu, parce qu'il y a autant il y a des bandes originales où les filles sont plus présentes, autant là, je nous trouve trop nombreux.
Alors, je vais te faire un casting. Vous sortez là.
Mais non.
Mais
non. Attends, c'est pas ça, ils sont capables de partir.
Guillaume, c'est une petite heure cadour Cadignan.
Et la régie, c'est les filles. Au pouvoir.
C'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles en régie. Ça, c'est vrai. Nous allons recevoir Guillaume Musso.
D'ailleurs, coupez son micro, s'il vous plaît.
Vas-y.
On va recevoir Guillaume Musso pour son nouveau roman, L'inconnu de la scène. Et on va jouer pour ça. On va faire un petit blind test. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est publié chez Kalman Levy. C'est 423 pages, c'est bien costaud. Ça vous tient bien, il y a pas mal d'intrigues.
Ça fait 5 centimes la page, c'est
et
une bonne affaire.
On va faire un petit blind test, mais alors ça, c'est pas moi qui l'ai préparé.
Ah bah oui, alors, sur quel thème?
Et bah, donne. Et bah, sur la scène.
Morgane.
Oui, Morgane.
Non, Mathieu Chédid.
Mais oui.
Et Vanessa Paradis.
Bah pourquoi t'as pas joué, Leïla?
Parce que j'ai pas les réponses. Alors, Alicia, tu peux me donner au casque les réponses?
Non, elle peut pas animer et jouer en même temps, en fait. Je sais quoi, alors?
Si on réécoute.
C'est la scène?
La scène, ok.
Si on réécoute, vous allez entendre juste. Parce que j'ai fait dire mon prénom, mais je buvais.
C'est de l'eau. Tu as mis de l'eau pure dans la scène et ça ne passe pas, Jérémy.
Écoute.
Tanguy,
oui, il est là.
Ah oui.
Ah, oh, mais c'est pas possible.
Daniel. Mais si, Tanguy.
Daniel. Bah non, mais t'as rien dit.
Tanguy.
Ah oui.
Oh, mais là, attends.
Elle triche un peu.
Mais non, mais il n'y a pas celle dans Paris Latino.
Il y a Paris,
c'est Paris.
Il y a Paris,
ouais,
d'accord.
Il y a Latino, s'il te plaît. C'est évident.
Il n'y a pas celle. T'as été troublé, t'as attendu qu'il y ait scène, c'est ça?
Bah ouais,
j'ai cru que c'était That's the Look of Love, l'intro.
Ouais. Ouais.
Tu vois? Ouais. Pareil.
C'est quoi ce truc?
Jérémy?
Love is in the air.
Love is in the air. Love is in the air.
Ouais.
Petite pub. Okay.
Attention, qui chante ça maintenant?
Daniel!
Dutron!
Alors c'est pas possible, personnellement.
Ouais, c'est vrai. C'est sur le gong à chaque fois, Tanguy.
Mais c'est pas sur le gong, c'est
vrai. Sur quelqu'un.
J'ai discriminé. C'est moi le gong.
Paris. Moi j'attends le super banco.
C'est du racisme anti-blanc.
Attention, ça va aller très vite.
Je fais le plein.
Morgane.
Thomas Dutronc.
J'aime plus Paris. Toi, t'es tellement loin de ton micro que t'as refusé de jouer, on est d'accord, Guillaume.
Non, mais je ne connaissais pas ce truc.
Connais pas.
De toute façon, on dit que
c'est bon. T'es au parking.
Mais de toute façon, il a beaucoup changé, Guillaume, ces dernières années.
Et c'est plus celui que j'ai connu.
Ouais, non, moi non plus.
J'aime plus Paris. Moi, j'aimais le Guillermo du confinement. Depuis qu'il est en liberté, je suis très inquiet.
Moi, je suis très déçu de moi-même.
Le Guillermo en visio, quoi. Ah ouais.
Tanguy,
oui, oui,
ça balance pas mal à Paris,
oui,
quoi.
Oui.
Bon, Berger gagne.
Tu peux dire 14 fois ton nom si tu le dis après, Tanguy.
On est sur une remontada possible. Je vous le dis.
Moi, j'en ai un en tête, là.
Guigui Aznavour.
Bravo.
Quel titre? Un titre, une chanson.
C'est,
ça, c'est, je meurs à Paris.
C'est pas Paris en août.
Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout Aznavour.
Ah, c'est pas Aznavour.
Non.
Bah, vas-y,
ça va.
Non.
Ça ressemble, hein.
Mais ça devrait.
Ah, il a attendu qu'il chante. Bah oui, parce que la voix, elle est tellement reconnaissable.
Je me couche Paris le matin.
Sous le ciel.
Mais là, Montant.
Oui.
Ah bah oui. Sous le ciel. Ouais, un duo, c'est un duo en fait. Aznavour arrive après, il fait du beatbox, il fait des congas.
De sa vieille cité, près de Notre-Dame.
Qu'est-ce que c'est beau.
Parfois couvain. Oh.
C'était le pari d'avant, c'était
deux
mieux
points
qu'aujourd'hui.
Pour, Leïla, 2 points pour Leïla, 2 pour Tanguy. Je crois c'est ça. T'as
accordé.
Non.
Non, non, moi j'ai qu'un. Non.
Ah bon.
Non,
j'ai
Morgane.
France Gall, c'est tout.
Ah, Morgane, t'as 2 points, pardon. Et Daniel, 1 point. Tous se jouent. Attention.
Jérémy.
Tous se jouent là-dessus.
Ah, c'est ma chanson préférée.
Tanguy, oui.
Etienne Dao.
Voilà.
Oh.
Les bords de scène. Etienne Dao.
Okay. Avec une brésilienne.
Ah, c'est où,
Astrud Gilberto.
Bah, goûte.
On est là, on n'est pas là. Mais je remonte Tada. Est-ce que je l'ai pas prédit? Il y a 40 secondes. J'ai dit remonte Tada.
Beaucoup de syllabes pour juste dire Etienne Dao.
On redescend.
Guy fait un temps calme.
Il est trop de sucre, quoi.
Mais oui. Guy croise les bras.
Victoire de Guy.
Non.
Ah, carrément, tu te rends porte le casque.
C'est une belle victoire, Guy.
Excuse-moi, t'as un chewing-gum dans la bouche?
Ouais, ça a été un accouchement douloureux.
Ou t'as une dent sur pivot qui est en train de se dévisser?
Il s'est fait greffer une langue.
Je sais pas, on a le sentiment que t'as un problème buccal.
T'as plein de trucs dans la bouche.
Ouais, t'as un truc dans la bouche.
Vous avez pas une émission à faire, vous, de vous intéresser à moi? C'est pas qu'il y a des gens qui écoutent et tout, mais allez-y.
Merci Guillaume Musso.
Bonjour
Guillaume. Soyez le bienvenu avec l'inconnu de la scène qui part alors d'une légende ou d'une histoire vraie du 19e siècle?
D'un fait divers littéraire, effectivement, de la fin du 19e
siècle. Alors attendez, ce que l'on appelle un fait divers littéraire.
Et artistique.
C'est une invention.
Non.
C'est à la fin du 19e siècle, une jeune femme est repêchée sur les bords de la Seine.
Une jeune femme suicidée?
Oui. Conduite à la morgue, et l'employé de la morgue trouve son visage incroyablement serein et va faire
son masque.
Empreinte pour faire un masque mortuaire.
Qu'on a retrouvé chez beaucoup de célébrités, d'ailleurs vous le racontez.
Oui, le masque va être dupliqué, devenir une sorte d'objet design iconique du Paris bohème des années 20 et 30. Voilà, les artistes avaient ça dans leurs ateliers.
Et la sérénité de ce visage que vous reproduisez,
oui,
d'ailleurs,
dans le livre.
On se demande même s'il n'y a pas un début de sourire.
Oui, c'était ce qui était marquant, c'est qu'on a l'impression que finalement le passage de vie à trépas de cette jeune femme a été proche de l'extase, en tout cas, de la sérénité. Ouais.
En tout cas, elle a obtenu ce qu'elle souhaitait.
Ce
qu'elle était venue chercher au fond de la Seine.
Dans la mort. Ouais.
La différence est que vous avez, c'est un peu le point de départ aussi, cette demoiselle qui met fin à ses jours dans votre roman. La différence,
c'est qu'elle est vivante.
C'est qu'elle est vivante. C'est qu'elle ne réussit pas, entre guillemets, son suicide.
Non, voilà.
Elle s'échappe, elle s'enfuit. Et l'autre problème, c'est que quand on fait des recherches ADN, elle est morte.
Oui.
Donc, voilà, fin de l'émission. Bonne
journée.
Une
jeune femme nue, amnésique, repêchée par la brigade fluviale dans la Seine, conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris. Analyse ADN montre en fait que cette femme est censée être une pianiste, Milena Bergman, morte un an plus tôt. Dans un crash d'avion. Donc la question, c'est comment peut-on à la fois être morte et vivante? Une enquête qui va être menée par son ancien fiancé.
Daniel.
Et par une flic mise au rencard, Roxane.
Ouais. Alors, elle est votre roman au début, en tout cas, parce que il y a beaucoup d'évolutions et beaucoup de parties entre guillemets dans ce roman. Il y a même plusieurs histoires en une. On pourrait s'attacher à celle de la policière, Roxane. On pourrait s'attacher à celle du fils du policier, qui est lui-même romancier. Est-ce une
Absolument.
Mise en abîme aussi? Et puis il y a aussi l'histoire de cette inconnue elle-même et de tout ce qui, sans mauvais jeu de mots, navigue autour d'elle, avec une part de mythologie qui intervient aussi. Donc il y a beaucoup de prismes par lesquels on peut parler sans dévoiler ce qui se passe dans votre roman, mais surtout il y a Paris.
Oui.
Et c'est pour ça que...
Et la mère de Paris.
Et la mère de Paris. Parce que, non, oh là là. Parce que vous êtes violent avec Paris.
Non, c'est... Paris et moi, c'est un amour contrarié. Moi,
c'est un amour vache, alors.
Je suis pas parisien. Je viens d'Antibes, dans le sud-est. Je suis ici parce que mes enfants sont scolarisés ici et que j'ai envie de voir mes enfants tous les jours. Bon, on est dans un polar, donc on est dans un Paris qui est pas le Paris de carte postale.
Non, mais la mère de Paris...
Pourquoi?
Elle reçoit.
Pourquoi vous dites ça?
Je peux vous faire une analyse très très précise des pages.
Parce que d'abord, vous dites la vérité.
Oui.
Vous dites la vérité sur la propreté ou la saleté, sur les rats, sur les travaux qui commencent et qui ne finissent jamais. Sur les barricades, enfin, je sais pas qu'on appelle ça.
Cet amour un peu vache avec Paris où certains soirs
vous êtes Antibes, chute canne, on va se calmer.
Voilà, donc
on va se calmer, on a la même vision. Mais pourquoi vous l'assumez pas?
Vous devriez lire le bouquin.
J'aime aussi Paris, c'est un théâtre incroyable pour raconter un polar, et j'y vis, et il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins, mais comme comme tous les Parisiens, même, même d'ailleurs à un moment...
Guillaume, vous auriez pu écrire ?
Je fais le plein d'essence,
ah non, attends,
j'aime plus le Paris.
Voilà, j'aime bien la chanson, ouais. Et la diatribe du chauffeur de taxi, ouais, dans le roman, elle est quasi mot pour mot ce que m'a dit
du vécu,
un chauffeur. Ouais, absolument, absolument.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on est, on est pas loin. Et puis, il y a à la fois cet amour vache pour Paris, sa saleté, ses rats, ses travaux, ses embouteillages, la vitesse à laquelle on ne roule plus, d'ailleurs, c'est plutôt de la marche arrière, enfin bref, tout ça. Bon, il y a cette vision-là. Et de l'autre côté, l'amour,
oui, quand même,
de cette ville, oui, vu avec un point de vue, avec une, je sais pas si elle existe, cette, oui, cet appartement ou cette pièce comme ça au-dessus du Bon Marché.
Oui, 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 c'est en fait, elle existe, mais je l'ai transférée dans cet endroit-là, oui, ce beffroi, cette tour de l'horloge, qui est le quartier général, effectivement, de ce bureau des affaires non conventionnelles. En fait, au départ, je voulais écrire une sorte de X-Files à la française, ouais, vous voyez, où il y aurait un bureau dans comme ça qui enquête sur, ouais, des...
Enfin, c'est un bureau où il y a un flic,
oui, oui,
qui est plutôt dans un placard.
Voilà, oui, voilà, ça, voilà. Parce que je fais l'historique de ce bureau qui avait été créé dans les années 70, où on avait créé aussi le GEPAN,
oui,
où voilà, où c'était une
doit être tiré
décennie.
La série OVNI, on a
OVNI,
reçu,
absolument.
Exactement.
Oui, bien sûr. Ouais, qui est, et où, oui,
qui est,
oui,
un,
où
qui est un bureau qui était fait pour, réellement, pour analyser, ouais, toutes les affaires, ouais, dites étranges.
Oui, voilà, à la lisière entre le rationnel, l'irrationnel, le paranormal, et qui, au fil des années, est devenu un endroit, effectivement, où on mettait les policiers en délicatesse, effectivement.
En délicatesse. Ça s'appelle L'inconnu de la Seine. Le suspense est à chaque page, évidemment, puisque, en plus, vous utilisez votre plume pour que les narrateurs aussi ne soient pas toujours les,
oui,
mêmes, ce,
absolument,
qui fait qu'on se demande par quel prisme on démarre ou commence un chapitre, et finalement les points de vue sont évidemment pas forcément les mêmes, mais on a comme ça des indices qui avancent, on se croit toujours plus malin d'ailleurs, et que l'auteur et que les acteurs, en se disant ok, moi j'ai compris, mais évidemment il y a toujours des rebondissements, et ce tout au long de ces 400 pages, j'ai...
423.
D'accord.
Les a comptés. La 23e, c'est les remerciements.
Non. Et on part de Paris pour finir dans une autre région, ouais, française qui, elle aussi, a une île. Voilà.
Absolument.
Je n'en dis, ouais, pas plus. Ouais. Voici Morgane Cadignan. Qui ne vous aime pas, Guillaume, figurez-vous. Autant des millions de gens vous lisent et vous aiment et vous adulent, mais pas Morgane Cadignan.
Et non, bonsoir. Guillaume.
Bonsoir. 11h17. Bonne nuit. Allez.
Guillaume Musso, je vous aime pas, mais c'est fou cette équipe en studio, là. Jérémy, Guillermo, Guillaume. On est visiblement en 3G aujourd'hui, alors que je suis vaccinée. Mais ouais, je sais. Non, mais pas
mal,
ouf.
Pas
ouf. Il y avait clairement une blague à faire sur le point G, mais je l'ai pas trouvée et je suis la première déçue. Hein. J'ai pas trouvé la blague. Je précise.
Oui.
Le point G, ça va. Je suis curieuse. J'ai le pouce opposable et du temps libre. Donc tout va bien. C'est comme une mayonnaise. Il y a rien qu'on puisse pas faire avec un peu d'huile et de patience. Guillaume Musso, pour parler de vous...
Je vais prendre un thé, moi.
Pour parler de vous, on est obligé de devenir une sorte de Laurent Boyer dans l'addiction, parce que Guillaume Musso, c'est 19 romans, 35 millions de livres vendus, traduits dans 45 langues. Premier écrivain français en termes de vente, premier écrivain français en termes de présence dans le salon de ma mère. Et ça, bravo. Que serais-je sans toi? Seras-tu là? Parce que je t'aime, je reviens te chercher. Et le saviez-vous, tous vos livres, si on met les titres bout à bout, on obtient une chanson de Danny Briand. En fait, vous êtes super romantique, Guillaume Musso, mais faut arrêter d'infuser ça dans nos esprits. Parce que nous, on y croit après, et on est dans la merde, t'es là, t'es dans ton canapé, tu lis Guillaume Musso, je cite, « Jamais il n'avait eu le courage de lui avouer son amour. Certains jours, il pensait qu'elle était amoureuse de lui, mais comment en être certain? Surtout, il ne s'en sentait pas de taille à supporter un refus, il l'aimait trop pour ça. » Et à côté, t'as un mec en maillot du Barça, qui attend une applause parce qu'il a commandé un Uber Eats. J'ai pensé à prendre du wasabi cette fois, bravo Jean-Louis, moi j'ai pensé à prendre ma pilule pendant 12 ans, mais on peut demander l'arbitrage vidéo pour voir qui met le point, quoi. C'est trop compliqué, mais c'est trop compliqué pour moi que la vie soit toujours plus décevante que les livres. Du coup, technique, je ne lis plus que des notices de médicaments. Je ne suis plus déçue. Hier, je me suis endormie en bouquinant la posologie du Gaviscon. Et au moins, moi, ça me promet rien, si ce n'est un estomac toujours plus serein. Les hommes, dans vos livres, ils sont toujours prêts à tous les dangers pour retrouver une fille toujours un peu chelou, qui sort toujours un peu nulle part. Puis il y a souvent un flic un peu fragile. Cette fois, la fille, elle est repêchée dans la Seine, nue et amnésique, alors qu'elle est morte il y a un an. Du coup, vous posez la question, comment peut-on être morte et vivante à la fois ?
Alors, c'est extrêmement facile. Vous buvez des cailles Pirinia, vous allumez vos clopes, vous allumez vos clopes deux par deux et vous allez vous coucher directement, surtout sans boire de l'eau. Hein. Et vous verrez le lendemain, tu te réveilles avec le cœur qui bat, mais faut pas en demander plus au système. Quand même boire de l'eau, ça te file la nausée parce que ça te rappelle le goût des glaçons du cocktail, t'es un peu loin. J'ai une pote la semaine dernière qui m'a dit, mais t'es peut-être enceinte. T'es peut-être enceinte. Et je lui ai dit, bah, t'as raison, prenons pas de risque. Écoute, c'est à la prochaine cuite, je me sens pas bien, je fais un test. Toujours ce projet d'être une mère formidable, mais j'espère, parce que je veux pas avoir d'enfant de quelqu'un qui n'est pas un minimum à la hauteur d'un personnage de Guillaume Musso. Donc les amis, si vous ne nous traitez pas comme dans un livre de Guillaume Musso, traitez-nous comme un livre de Guillaume Musso. Emmenez-nous partout, même si on est un peu épaisse et qu'on prend de la place. Ne nous lâchez pas sur la plage. Tardez à éteindre un peu la lumière pour rester encore un petit chapitre. Endormez-vous sur nous et par pitié, apprenez à reconnaître une métaphore trop longue.
Et Morgane Cadignan, du jeudi au samedi, rendez-vous à 20h au Métropole pour te voir sur scène.
Rendez-vous.
C'est vrai qu'il y a des histoires d'amour multiples dans ce roman. Il y a des histoires aussi de filiation, oui, de transmission. Ça fait partie du point de départ de votre roman. C'est-à-dire, quand vous écrivez une intrigue policière, il y a des axes, des points de vue, une toile de fond. Qu'est-ce qui vous a motivé là?
J'écris toujours mes romans, moi, à plusieurs niveaux de lecture. Le premier étant le plaisir de tourner les pages, voilà, d'être dans une enquête immersive, voilà, ouais, le suspense. Et le deuxième étant d'essayer de traiter de certains thèmes. Là, effectivement, il y a la mythologie, mais il y a effectivement surtout la parenté, parentalité et les rapports entre un père et son fils qui ont vécu une histoire douloureuse. Un a perdu une fille et l'autre la sœur, donc, et c'est forme une sorte de couple où quand il y en a un qui va mal, l'autre le soutient, et inversement.
Et la fiction guérit.
Et bien sûr.
C'est le pouvoir de la fiction aussi que vous expliquez dans cette histoire de filiation.
Comment côté, effectivement, réparateur. Mm-hmm. Voilà, la fiction peut réparer un mensonge. Mm-hmm. Peut au début réparer puis avoir malheureusement des répercussions, un effet domino désastreux. Oui, j'ai un âge où à la fois j'ai des enfants en bas âge, j'ai des parents plus vieux et on voit bien là ce lien. Connaît tout ça ou presque, l'attachement aux enfants, l'attachement aux parents, le temps qui passe, les enfants qui grandissent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment leur transmettre aujourd'hui?
Et les secrets, de famille.
Les secrets de famille, effectivement, que l'on
souhaite ne pas connaître dans sa propre famille, mais qui intrigue dans les autres.
Qui sont là et qui sont des sources, effectivement, là, pour le coup, de romans, de fiction.
Alors, le papa en question s'appelle Marc. Oui. Lui, il fait partie de ces grands flics qui a arrêté l'horticulteur,
c'est ça, ouais. un tueur en série dans les années 90.
Qui a été surnommé comme ça parce qu'avec un sécateur, il coupait tout ce qui dépassait. Ouais, voilà, je vous laisse maintenant imaginer la suite. Ouais. Il a existé, ce tueur en série, ou c'est...
Non, j'en ai pris plusieurs et je les ai un peu mixés, mais je trouvais ça drôle, voilà, le côté...
Vous en avez parlé à un professionnel de vos envies, de mélanger...
Non, c'est vrai,
couper tout ce qui dépasse. Et donc, il est le papa d'un auteur, d'un romancier,
Raphaël,
qui s'isole d'ailleurs pour pouvoir écrire, qui s'isole tellement qu'il n'est même pas au courant que son père a fait un AVC.
Oui, il va écrire dans une sorte d'asile, en fait, parce qu'il a besoin...
Pas loin de chez vous.
Absolument, voilà, du contact, de l'étrangeté, de l'anormalité, entre guillemets, et cet écrivain, voilà, va apprendre en fait que son père est dans le coma. Son père était en train de mener une enquête et donc un petit peu reprendre l'enquête de...
Oui, et puis
père.
Roxane aussi, celle qui vient le remplacer, reprend aussi cette enquête pour essayer de comprendre comment et pourquoi d'abord a-t-il vraiment fait un AVC, ou est-ce que c'est un attentat, ou est-ce qu'on l'a poussé dans l'escalier en colimaçon, puisqu'elle se retrouve dans cette espèce de beffroi de cette tour, avec, on imagine bien, les poutres à la Gustave Eiffel, bien aussi la possibilité d'avoir une petite porte qui mène sur les toits, et là elle voit à 360 Paris, degrés voilà. tout Paris,
et là elle voit Paris, le beau Paris. Elle voit le beau Paris.
Plus beau d'en haut que d'en bas.
Cette envie, de montrer effectivement que quand on s'élève, on se sent plus protégée. Là, je pars avec une héroïne dont on sent qu'elle a été mise à l'écart sans qu'on sache vraiment pourquoi.
On ne sait pas pourquoi.
Voilà.
Ouais.
Et donc pendant tout.
Mais
le,
elle reste pote avec
roman,
ses anciens collaborateurs.
Oui, oui, oui. Et donc ça lui
enfin,
permet.
Certains de ses anciens collaborateurs.
Finalement, c'est l'histoire de cette femme qui a toujours rêvé d'enquêter sur voilà d'avoir une affaire incroyable, une grosse affaire, et qui au moment où elle pense qu'on la met dans un placard, on lui amène comme ça cette affaire de
peut-être,
l'inconnu.
Peut-être
de
l'affaire
la scène,
de sa vie.
Qui est l'affaire de sa vie, absolument.
Le paranormal, c'est une source d'inspiration aussi, et la mythologie permet de tout se permettre, justement.
Oui, alors la mythologie, c'est venu il y a 2 ans. Mon fils de 6 ans s'intéressait à ça. Je lui ai acheté des livres qu'on lisait à deux. Et ça m'a permis de redécouvrir la figure de Dionysos, qu'on connaît surtout sous sa forme romaine, oui, le Bacchus romain, le grain, le vin, voilà, alors que le
oui, les bacchanales, mais ça,
oui, voilà, et la figure du Dionysos grec, lui, est beaucoup plus vengeur, cruel, c'est le dieu de la perte de contrôle de soi,
du sacrifice, du théâtre aussi,
absolument, voilà, des faux semblants. J'ai relié ça à la drogue et à un culte. J'avais beaucoup été marqué quand j'étais plus jeune par un roman qui s'appelait Le Maître des Illusions de Donatarte, qui racontait effectivement aussi ce côté décadent et déviant lié au culte et au bacchanal.
Mais alors de s'amuser à raconter des histoires à ses enfants ou de suivre les cours ou les leçons de mythologie vous inspire, ça veut dire que l'inspiration peut venir de n'importe, entre guillemets, n'importe quel fait divers, y compris le passage sur les drones ou en tout cas la technologie, c'est-à-dire que tout devient
fait farine
un ingrédient possible.
Ouais, tout fait farine dans mon moulin.
C'est pas l'inverse. Moi j'ai eu l'impression que vous partiez sur
tout
une idée
dans la farine,
et que
il y a les deux.
Ouais. Et que vous vous documentiez pour
les deux.
Alimenter votre roman.
Les deux.
Il y a un travail de recherche.
Un travail de recherche en amont, 3-4 mois. Vous lisez énormément de choses, vous stockez des informations, et au moment d'écrire, vous mettez tout ça à l'écart et ne surnage que ce que vous avez retenu.
Ouais.
Voilà. De ça, donc.
Moi, parce qu'il y a des références. Enfin,
oui,
elle est longue, la liste des références. Le crédit, vous le mettez d'ailleurs.
Mais moi, j'aime bien qu'un roman à la fois divertisse, instruise, donne envie de lire d'autres choses, de voir des films. Donc oui, il y a ces références-là. On peut aimer les divertissements intelligents.
Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on dise, finalement, en vous lisant au-delà de c'est captivant, c'est passionnant, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, mais ça, vous avez l'habitude
l'entendre.
Vous attendez quoi en plus? J'ai appris tel truc, j'ai découvert.
Je suis attaché, vous savez, l'origine du mot divertissement, c'est faire tourner à l'extérieur. Ça veut dire que lorsque un lecteur me dit que pendant un moment, il a été à l'extérieur de lui, qu'il a été arraché à son quotidien, sa vie, et qu'il a plongé tout ça dans une expérience de lecture immersive, bon, ben voilà, moi, ça me suffit. Il n'y a pas de message dans mes romans. Je me méfie beaucoup des romans à message.
Il y en a, vous ne voulez pas appuyer dessus, mais il y en a quand même. Vous ne pouvez pas rester totalement hermétique à la vie, à vos opinions, à vos valeurs. Donc elles sont présentes. Après,
elles sont présentes, mais à travers, vous savez, à travers ce que portent les personnages.
Ouais.
C'est pas tout à fait des marionnettes que je fais parler. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui ont une caractérisation avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Moi, vous savez, je fais des fiches biographiques de mes personnages avant de commencer à écrire, qui sont assez longues et qui peut aller jusque quel est le prénom de la grand-mère de l'héroïne, quel est son plat préféré, quelle est sa chanson préférée, pour les connaître, même si
comme
vous
une
vous
bible,
retrouvez pas.
Oui, comme c'est une bible ça. Dans une fiction.
Absolument, absolument. Mmh. Et ça, c'est vous en retrouvez 0,01% dans le livre, mais
ça vous aide.
Ben oui, parce que ça vous met en empathie avec des êtres de papier qui petit à petit deviennent des connaissances et des amis presque.
Et quand s'il y a une scène où ils arrivent au restaurant, vous savez ce qu'ils vont manger parce que vous avez l'affiche.
Ou ceux qui n'aiment pas. Oui, voilà. S'ils suivent un régime, s'ils boivent de l'alcool, s'ils sont
végane.
Abstinent, végane, mais oui,
sans gluten.
C'est en ça que vous créez un univers vraiment complètement parallèle, précis, avec des petits détails et que tout ça prend du temps. Vous pouvez pas écrire sans passer par la casse travail. Moi, je travaille 10 heures par jour. On le voit.
On sent qu'il y a du travail.
Oui, alors on le sent, mais ça doit être effectivement, ce sont des fils un petit peu invisibles qui doivent pas freiner quand même la fluidité.
Guillaume, oui. On sent qu'il y a du travail comme comme on sent qu'un architecte a construit un labyrinthe.
Ben oui,
c'est-à-dire que vous nous perdez dans les méandres des histoires, mais il faut le temps de construire ce labyrinthe et d'en trouver quand même une issue.
Une issue, oui, bien sûr. Mais oui, pour un roman comme ça, vous pouvez pas commencer à l'écrire si vous connaissez pas la fin. En fait, tout se passe comme une sorte d'escalier en colimaçon inversé. Vous partez de la fin, ben oui, et vous, en fait, vous déconstruisez l'histoire du chapitre N-1, N-2. Donc le roman, la première fois quand vous construisez le squelette, c'est selon un ordre anti-chronologique. Vous partez de la résolution de l'affaire et vous remontez à la source du crime initial.
Est-ce que cette fin appelle une suite ?
Oui, je pense, oui, celle-là, je pense.
La connue de la scène.
Je pense que ça peut, oui, parce qu'il y a tout, vous avez un lieu, vous avez des personnages.
Non, puis il y a vraiment un cliffhanger.
Voilà, un triangle amoureux aussi qui commence à se mettre en place. Et pour qu'il y ait une suite, il faut que l'auteur en ait envie, les lecteurs en aient envie, les personnages en aient envie.
Et qu'Anne Hidalgo soit disponible, parce que là, ça se trouve, elle sera présidente.
Mais, Non, vous êtes médium.
Elle a un programme super.
Vous êtes médium. Vous l'avez déjà écrite, la suite?
Non, elle est
possible.
Il y a des graines qui sont plantées. Et oui, là, l'envie se fait grande. Là, les premiers retours de lecture sont bons. Les gens, sont plutôt demandeurs de ça. Voire même un préquel, à savoir comment ce bureau a été créé dans les années 70. Et pourquoi pas une histoire
sur l'horticulteur.
Voilà. Mais oui,
bien sûr, il faut aussi l'exploiter, cette piste.
Oui, absolument.
L'inconnu de la scène chez Calman Lévy, c'est le nouveau Guillaume Musso. Voici l'ancien Guillermo Guise.
Vas-y. Ça va les amigos, j'ai un super truc à vous annoncer. Quoi, ton blanchiment des dents? Alors pas du tout, quoi que ce serait pas un luxe, hein, surtout si je vais enfin le tourner mon biopic sur Jean-Marc Morandini. Là je cherche mes rôles secondaires en camp scout, les gens te réclament des sommes, incroyable. Coyote Frigide, il a même pas tourné dans une pub qui rit, il veut déjà un cachet à la Richard Anconina. Non mais, mon annonce c'est que samedi soir je serai en direct sur France 2. Là, il y a Nagui qui se fait « Comment ça ?»« Comment ça parle, fils de pulpe ?» Alors, relax, Nagui, rangez-moi ce tison. Non, je vais dans l'émission d'après, chez Laurent Ruquier. Vous voyez l'émission qui commence le dimanche matin ? Je viens parler de mon nouveau livre, « En finir avec les kilos en trop, grâce à la technique révolutionnaire dite du décès. » C'est vrai, on n'y pense pas, mais quand tu meurs, tu élimines v'là les mauvaises graisses. Non, mais je viens pas dans The Artist, Nagui. Quoi qu'il y ait une période de ma vie, j'aurais pu en rêver, vraiment. Moi, j'ai eu un groupe. Je vous promets, ça s'appelait Émile et Émile. C'était un cover band. C'était un cover band d'Émile et Images et de Émile Louis. Tu vois, on jouait que dans des terrains vagues. C'était une très belle aventure. Mais non, blague à part. Non, c'est un truc que je raconte pas souvent, mais c'est vrai. Avec mon meilleur ami, on a vraiment eu un groupe. Il y a une quinzaine d'années, tout, un duo, c'est lui à la guitare et moi au chant et tout. Et on n'est pas passé si loin d'une carrière. En kilomètres, je dirais 1 million. On est passé à 1 million de kilomètres d'une carrière. Je connais un chevreuil qui est passé plus près d'une carrière, vraiment. Et au final, elle a fait un duo avec M. Très beau clip dans un sous-bois. Mais nous, c'était compliqué de percer. Mon pote, il connaissait vaguement deux accords. Moi, je chantais vraiment comme une patatos. Pourtant, dans nos têtes, on était vraiment Simon Garfunkel. Je suis sûr, il y a des enregistrements qui existent. On enregistrait dans le studio d'un copain. Il y a vraiment des bandes qui existent, quoi. Je les ai cachées dans un coffre à la banque. Si quelqu'un tombe dessus, je me barre au Venezuela, je reviens jamais. Je crois que j'ai moins honte de mon selfie avec Pierre-Jean Chalençon, vraiment. Et pourtant, sur la photo, je fais une quenelle et lui fait un West Side. Vraiment, j'ai vraiment honte. Mais à l'époque, on était fiers de nos chansons. Je me rappelle, on était vraiment fiers des chansons. Je vous promets, j'avais une pote dont j'étais vraiment amoureux de ouf et tout, et qui voulait pas de moi. Et un jour, elle accepte enfin de passer boire un verre à la maison. Et je me dis, c'est quoi, c'est mon moment. Je vais lui sortir ma botte secrète. Et je lui fais, je peux te faire écouter un truc? On est restés potes, hein. Je t'annonce. Je crois qu'il y a eu un tsunami de malaise. Vraiment, je crois qu'elle a perdu 11 cils. Vraiment, je crois que deux villes plus loin, il y a des gens qui ont ressenti du chagrin. Vraiment, la pauvre, je la lâchais pas. En plus, j'étais là, mais non, j'en ai une autre. Hein. C'est vachement plus politique, ça s'appelle peine de mort. Vraiment, c'est sans concession. Mes textes, ils étaient claqués au sol. T'écoutais mes chansons, tu priais pour entendre Renaud. Vraiment, c'est quoi, coronavirus, connard de virus, jamais j'ai rien écrit d'aussi fort, quoi. Et ça a toujours été une sorte de fantasme, la musique. Ado, moi, je voulais être batteur, comme Moulinex. Et en même temps, je me suis lancé dans l'humour entre temps. Là, c'est comme ça. Quoi, batteur Moulinex? Qu'est-ce qu'il y a, batteur Moulinex?
Ça marche bien.
En deux générations, on parlera encore de cette blague. En interview, on me dira le retour du jeu de mots, ça a commencé quand vous pensez? Moi, je sais pas, septembre 2016, dans le 16e arrondissement. C'est vrai? C'est vrai, il y a 15 ans, je prenais des cours de batterie, tu vois, je rêvais vraiment de ça, littéralement, quoi. Genre, j'ai une nuit, j'ai rêvé que j'étais à un concert des Stones, et genre, Charlie Watts, il arrive pas, je vous promets, et il y a Mick Jagger, il fait, quelqu'un sait jouer de la batterie? Moi, je dis, ouais, moi, il me fait Ernesto, viens, parce que Mick, je le connaissais des soirées.
Bien sûr.
Et dans mon rêve, je commence à jouer avec les Stones devant 81 personnes, sauf que je jouais avec mon vrai niveau de batterie. C'est-à-dire que, ça faisait, I can get, non, mais satisfaction,
la même honte que maintenant.
Mais ouais, je comprends pas mon cerveau. Pourquoi dans mes rêves il met pas du talent? Tu vois, qu'est-ce que ça lui coûte à mon cerveau? Franchement, parce que là, dans mon rêve, Jagger il m'a jamais rappelé, quoi. Donc voilà, je viens pas dans The Artist, je vais dans On est en direct samedi, parce que pour mon spectacle, et je suis tendu parce que c'est en direct. Et il y a une toute petite partie de moi qui se dit quand même, et si je faisais une dinguerie? Vraiment, franchement, je pourrais faire un coup d'éclat, non, en direct. Oui. Je pourrais brûler un billet de 5 euros, comme Pierre Rabhi. Tu vois, vraiment, où, ça lancerait ma carrière, tu vois, ou faire l'hélicoptère. Mais je me suis dit, plein de fois ça ici, on est à la bande originale. Je me suis dit, pourquoi pas, je ferais un truc vraiment fou, quoi. Tu vois, genre, une vraie fan chronique, mais. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, Yabo.
Et Guy, on te retrouve sur scène le 30 septembre à Apache, passé.
Ah, je dirais passé.
C'est en Italie, oui, il faut y avoir Pache.
Qui a volé l'orange? Je sais pas où c'est, tu le dis pas.
C'est en Bretagne.
Et le 1er octobre à Saint-Étienne-de-Montluc.
C'est à l'envers.
C'est en Verlan, ça. Et tu es vraiment dans l'émission de Laurent Ruquier?
Ah, moi je suis la veille, je danse.
Tu sais quoi, je te lance.
C'est vrai?
Je te lance.
Ah, trop bien.
Parole. Allez. Parole. Tu sais quoi?
My man.
Et alors, soit au maquillage à 22h, je finirai plutôt pour toi.
Oh là là.
Je peux pas faire plus. Non, non plus, je m'engage trop.
Non, okay, ouais, d'accord.
Guillaume Musso, l'inconnu de la scène, avec ce roman et ce regard sur le rapport que les uns et les autres peuvent avoir dans des familles, dans des histoires d'amour, dans la vie professionnelle, dans la progression aussi professionnelle, parce qu'il y a un rapport entre Roxane et Valentine, la thésarde, qui est assez particulier aussi. C'est-à-dire qu'elle elle est plutôt agressive avec elle dans un premier temps, et puis finalement, elles sont très complémentaires.
Oui, il y a cette équipe-là de deux femmes qui enquêtent, une flic... effectivement un peu blasée, un peu triste, un peu dépressive, avec qui au contact...
Mais très brillante,
ouais. Effectivement. Et cette jeune femme qui est Valentine, qui elle est venue faire une thèse, enfin venue faire un travail de recherche dans ce fameux bureau des affaires non...
conventionnel,
pardon. Et donc...
Qui comme par hasard, donc, il existe vraiment ce bureau?
Non, il aurait pu.
L'acronyme fait banque. Être au banc de la société, banc, c'est
ouais,
bien.
Ouais. Et ben c'était aussi voulu.
Ouais, d'accord, hein, très bien.
Bien vu. Ouais. Et oui, c'est vrai, il y a énormément de journalistes qui me demandent si ça... Notamment là... étrangers qui pensaient que le truc
ça existe vraiment.
Ouais.
Et qui n'ont pas vu le jeu de mots.
Non, ah ben non, à l'étranger, plus dur.
Et cette Valentine est très débrouillarde. Elle a une capacité d'agent secret quasiment.
Voilà. Et elle a effectivement un côté un peu caché. On comprend pas. Apparemment, elle a pas mal d'argent. Ouais. Elle a un sac Dior. Elle a une voiture assez neuve. Voilà. Et donc, il faudra attendre le
tome 2
pour savoir. Effectivement. Puis il y a.
Tu vois qu'un tome 2, il a lâché le
morceau. Il y a une attirance. De Roxane par rapport à Valentine, parce que voilà, elle prend cette énergie, puis cette femme qui voit le verre plutôt là, elle à moitié plein, et Roxane a besoin de ça pour avancer, de se nourrir un petit peu de l'énergie positive des autres.
L'inconnu de la scène chez Calman Levy, signé Guillaume Musso. Tout à l'heure, Didier Blonde, qui a écrit sur l'historique inconnu de la scène, celle qui est d'une certaine façon vous a inspiré, en tout cas,
on a raconté au début. Ouais.
Exactement, sera là tout à l'heure pour nous parler de cette légende littéraire ou de ce fait divers littéraire. La bande originale de Guillaume Musso, elle est très présente parce qu'il y a du monde, il y a les Beatles,
il y a de la
musique classique également très présente, puisque cet inconnu de la scène, grande pianiste, faisait une tournée dans le monde en jouant du Schubert.
Non. Oui, c'est son compositeur phare.
Voilà. Vous écoutiez, vous, en 99, Shania Twain. Ça cette chanson vous renvoie à quelle période de votre vie?
Elle me renvoie à la période où j'ai eu... En fait, c'était la chanson que j'étais en train d'écouter quand j'ai eu un accident de voiture.
Ah, je suis désolé,
ah,
mais
ah, non,
c'est vous qui l'avez choisi.
Tout va bien, mais oui.
Non, je vois que tout va bien, mais c'est pas des souvenirs qu'on a envie de remuer,
si? Oui, si, parce que c'est cet accident qui, finalement, m'a fait passer du statut de garçon assez insouciant à cette prise de conscience, finalement, de la fragilité de la vie, et qui a été à l'origine de l'écriture de mon premier succès et après. Donc c'est un moment charnière dans ma vie de voir comment un événement...
Même dire un virage aussi, voilà.
Oui, voilà. Pas mal.
Manqué.
Bravo.
Et vous auriez pu devenir inspecteur du Trésor,
oui,
Guillaume Musso. Et en fait,
mal tourné, donc.
Ah ouais.
Vous avez réussi les concours.
J'ai réussi pas mal de concours administratifs. Mes parents me poussaient plutôt, effectivement, parce que ça avait l'air plus prestigieux que l'enseignement. Voilà. Et
pourquoi l'enseignement, alors?
Parce que j'adorais transmettre. Je continue à aimer ça dans mes romans, les citations, tout ça. C'est une sorte de voilà, je me définis souvent un passeur de culture, et j'ai adoré enseigner l'économie pendant 10 ans.
Et un roman sur fond d'économie.
Oui, je suis pas sûr que ce soit ce que les gens ont envie de
lire. Je sais pas, mais vous allez pouvoir le rendre peut-être plus
oui,
sexy.
Ils en ont une image assez austère, oui. Ou assez pas très sexy, quoi. Oui. Donc non.
Quand vous dites que le roman est un divertissement, oui. Le divertissement doit apprendre aussi quelque chose.
Je pense.
On apprend en s'amusant.
Oui. Moi j'ai vraiment toujours eu une éducation liée à une culture très ouverte et basée sur le plaisir. Certes, la culture c'est bien pour les études, l'école, mais c'est aussi un moyen de s'émanciper, de se construire, de prendre du plaisir. Et en fait, oui, j'étais dans une famille qui était absolument pas snob. Et je pensais que tout le monde était pareil. Et c'est qu'après que j'ai vu que, ah ben non, en fait, tout ça était très cloisonné, très...
Et vous avez toujours le sentiment de ne pas en savoir assez?
Vous
auriez aimé apprendre
curieux,
plus?
Curieux, oui. Non, mais je continue. L'écriture permet... Enfin, c'est un luxe de consacrer sa vie à écrire, parce que quand vous écrivez, vous pouvez lire des livres pour exploiter un domaine qui vous plaît, et donc continuer à vous élever à travers l'écriture.
Et puis vous avez grandi dans les livres.
Mais oui, bien sûr. Oui, mais
dans la bibliothèque
dans
municipale,
les livres, absolument. Très bien.
Du village où vous avez grandi.
Les livres, les films, et toujours avec cette idée que voilà, fallait lire aussi bien Flaubert que Stephen King, Barjavel que Hugo, et il fallait aller voir Les Bronzés et Kieslowski ou Angelopoulos. Et c'était
ouverture d'esprit totale.
Bien sûr, oui.
En 2003, vous écoutiez...
Comme un fil entre l'autre et l'un, invisible, il pose ses liens dans les méandres des inconscients. Il se promène impunément.
Et sans doute l'une des plus belles rencontres de votre vie, c'est le public, Guillaume Musso.
Oui, alors ça c'est une chanson effectivement qui parle de l'amour. Comment l'amour, effectivement... peut rendre à la fois esclave, peut rendre libre, peut élever, peut vous détruire. Moi, j'ai toujours pensé... Enfin, je pense que tout m'emmerde dans la vie à part l'amour. C'est vraiment l'amour au sens large, hein. Amour filial, amour amoureux. Enfin, s'il n'y a pas ça, il y a... Si, voilà, j'ai toujours l'impression que c'est un moteur... incroyable, et que c'est toujours ça qu'il faut. Il y a une phrase de Christian Bobin là que j'aime bien, et qui dit c'est toujours de l'amour que nous souffrons, même si nous croyons ne souffrir de rien.
Vas-y, reprends après une phrase comme ça.
Ben non, mais pour évoquer après, vous l'avez dit, vous avez parlé de cet accident de voiture qui vous a fait tout d'un coup revoir cet accident par flash.
Oui,
à partir d'une histoire d'amour, d'ailleurs.
C'est vrai.
Vous revenez dans Rendez-vous Galant.
Absolument, oui. J'allais voir ma compagne qui était terminée ses études à Nice.
Ouais. Et vous avez eu envie de vous documenter sur ces expériences de mort imminente.
Oui, ces moments, vous savez, où on s'approche du passage entre
la lumière blanche
vie et la mort. Ouais, mais pour en revenir avec, finalement, essayer de hiérarchiser les priorités dans sa vie. Quoi.
C'est une embardée que vous avez faite avec un sanglier qui a traversé la route.
Absolument,
un
sanglier énorme.
Ils sont toujours énormes.
Vous étiez sourd, vous voyez des sangliers énormes.
Il y avait un petit côté... les choses de la vie aussi, pendant l'accident, est-ce que vous avez un souvenir de voir défiler des images ou de penser à quelqu'un en particulier?
De penser, de dire merde, ça va s'arrêter.
C'est maintenant. Maintenant,
j'étais pas du tout prêt. Et tout ça m'a paru assez court, quoi.
Et flippant.
Et flippant.
Et flippant. En 2009, vous écoutiez.
On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques.
On verra après, ça tombe bien.
Oui, voilà. Non, non, une chanson là sur les enfants, les cours de récré. Et oui, tout ça pour.
Ça, c'était la BO de.
La BO du petit Nicolas. Ouais, ouais. Et c'est assez. Moi, j'ai des enfants jeunes qui ont entre 4 ans, 8 ans, et j'ai toujours l'impression que c'est eux qui me réancrent finalement dans la vie, dans le réel. J'ai décidé de plus écrire chez moi, donc j'accompagne mes enfants à l'école et je vais dans un bureau, un atelier, et je travaille de 9h à 20h et je rentre après. Et donc, quand je suis avec eux, je suis avec eux et voilà, et le travail n'interfère pas.
C'est amusant parce que j'ai un ami artiste m'a dit la même chose il y a quelques semaines en me disant qu'il avait son studio à la maison. Il m'a dit mais il faut que je le déménage. Il faut qu'il soit ailleurs.
C'est pareil. Ouais. Ouais,
c'est vrai, voilà, pour que symboliquement il y ait ce côté je vais au travail et surtout je ne mélange pas.
Oui, puis c'est important que les enfants le matin voient partir au travail. Voilà, qu'ils comprennent que tout ça, voilà, il y a
pas juste papa est dans le salon en train d'écrire.
Voilà, parce que il faut pas qu'ils aient une vision comme ça un peu facile des métiers artistiques.
Et 2009, c'est l'adaptation de votre roman Et après au cinéma avec Romain Duris, John Malkovich. Est-ce que vous l'avez relu récemment ce roman Et après?
Non,
quel regard vous portez
jamais,
sur les œuvres? C'est vrai, jamais?
Non, mais il y avait, je sais pas, Aznavour me disait qu'il réécoutait pas ses vieilles chansons. C'est un roman qui a compté pour moi, voilà, et peut-être, moi j'ai toujours pensé que dans le succès, il y avait trois facteurs. Il y a le facteur travail, le facteur talent, mais le facteur chance. C'est que si ce roman était arrivé 5 ans avant ou 5 ans après, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette rencontre-là.
Ouais. Mais le travail a un gros pourcentage, quand même.
Je pense.
Ouais. Didier Blonde, bonjour et merci.
Bonjour.
Bonjour. De venir à notre micro. Vous êtes écrivain agrégé de lettres modernes et en 2012, vous avez consacré un récit romanesque autour de l'inconnu de la scène que vous avez publié chez Gallimard. Qui est-elle? Est-ce qu'elle est inconnue?
Question qui oblige à remonter le temps. À l'origine, enfin, qui est-elle? On ne le sait pas exactement. C'est ce qui fait son attrait encore pour son mystère pour nous.
Oui, mais il y a des milliers de faits divers qui arrivent. Alors pourquoi elle? À cause de ce masque?
Écoutez,
remontons
un tout petit peu le temps. On aurait repêché dans la Seine, certains disent dans le canal de l'Ourcq, le cadavre du jeune noyé dont l'identité était inconnue. Ça se situerait dans les années 1860.
Vous employez beaucoup le conditionnel, pourquoi?
Oui, parce que
tout est faux.
Il dit, attendez, ménageons un peu de suspense.
Mais tant que c'est pas prouvé, oui, conditionnel.
Oui, non, mais il y a toujours une petite marge encore d'incertitude dans laquelle on peut s'engouffrer pour imaginer. Elle aurait été donc amenée à la mort qui se trouvait à l'époque derrière Notre-Dame. À la pointe de l'île de la Cité. Maintenant, elle a été transférée place Mazas.
Je veux pas savoir. Je veux pas y aller.
Je t'emmènerai la guitare.
Non, je veux pas.
Comme tous les cadavres qui viennent de la voie publique, elle a été amenée pour être décrite, autopsiée et identifiée. Mmh. On exposait les cadavres à ce moment-là pour que le public vienne et éventuellement puisse les identifier. C'est ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là. Mais un employé de la morgue, frappé par sa beauté, aurait pris son moulage. Alors c'est vrai que c'est un, un visage qui est stupéfiant, quoi, de beauté. Oui,
et puis on évoquait ce petit sourire un peu à la Joconde.
Oui, c'est-à-dire, déjà avant, si vous voulez, le fait que le visage soit intact, ce qui n'est absolument pas le cas des noyés.
Quand ils sortent de l'eau, tout de suite, ça se
Pourtant, il y a toute une explication, en fait, justement, dans le roman de Guillaume sur le fait qu'ils sont un peu conservé entre guillemets quand on est dans l'eau, et dès qu'on sort de l'eau, là, ça voilà. on est
oui, ils deviennent bouffis. Enfin,
d'accord.
Vous savez, quand j'ai repris les recherches, mené l'enquête aussi, je suis allé aux archives de la morgue qui conserve les registres dans lesquels sont enregistrés tous les corps de ces années-là, ce qui est très très émouvant. Ils sont décrits minutieusement, tous les vêtements qu'ils portent sur eux, et il y en a même certains qui ont une photo au format d'identité, hein, à la fin du 19e siècle.
Ouais.
Effectivement, ça n'a rien à voir, son visage n'a rien à voir, ce qui laisse supposer, là aussi, que peut-être, soit on l'aurait repêché très vite, soit peut-être que c'était pas une noyée. Toujours est-il
qu'elle aurait été tuée avant d'être jetée dans l'eau.
Non, non, ménageons encore le suspense un tout petit peu.
Oh, il y a un moment où vous
n'avez
rien à dire. Tout ce chemin, vous êtes venu ici, ça roulait mal, toi, pour
si
rien
vous
dire.
Voulez. Non, mais on peut lever le voile sur ce mystère. Non, mais bon. Dès le début, de toute façon, ça n'empêche pas de rêver et d'avoir inspiré. Dès le début, on a fait remarquer qu'effectivement, ça pouvait pas être le corps d'une jeune noyée.
D'accord.
Et que c'était vraisemblablement une jeune modèle d'atelier qui avait posé pour ce visage, qui tout de suite a été reproduit à des centaines et des milliers d'exemplaires.
Il y a eu beaucoup de romans qui se sont inspirés de ce fait divers ou de cette légende de l'inconnu de la Seine.
Énormément. Ça a inspiré énormément d'artistes, poètes, écrivains, photographes.
Ça les a inspirés parce que justement, on ne savait pas. Et puis d'un coup, il y a une intrigue qui est possible pour tous.
Oui, bien sûr, le mystère augmente, décuple l'inspiration. Et puis, vous l'avez dit, c'est ce visage, ce sourire énigmatique. Aragon parle de la Joconde du suicide, quoi. C'est une sorte de sourire intérieur. Maurice Blanchot disait un sourire voilé, comme si elle avait emporté dans la mort son secret. Et donc ça a inspiré énormément, parce qu'on s'est posé la question, quelles sont les causes de ce suicide. Évidemment, ça ne pouvait être qu'un suicide.
Et votre théorie, puisque vous avez écrit sur elle?
Moi, je reprends l'enquête, je confronte tout. Évidemment, c'est toujours lié. C'est toujours lié à une histoire d'amour. D'amour déçu, c'est une jeune fille qui a été séduite et abandonnée, quoi. D'ailleurs, sa coiffure en bandeau, comme ça, montre que c'était quelqu'un qui, sans doute, était très sérieux. Elle est très jeune, quoi. Elle a 16 ans, 17 ans. Tous ceux, ils sont très nombreux, qui se sont inspirés. Aragon le premier, dans son plus beau roman, qui est Aurélien, hein, où la figure, le moulage, sert de leitmotiv dans l'histoire d'amour entre Aurélien et Bérénice, qui a donné lieu après à toute une série de photographies à la demande d'Aragon, faites par Man Ray. Où il y a une quinzaine de photographies dans la réédition du roman, où Man Ray montre les différentes facettes que peut prendre ce visage. À un moment, il lui ouvre même les yeux, il lui donne ceux d'Elsa Triolet. Ce sont toujours des histoires d'amour et de mort. Et évidemment, moi, dans le récit romanesque, j'ai greffé ça sur une histoire. Je pense que si elle... Encore maintenant, je veux dire, même s'il y a moins de textes, à part des essais peut-être universitaires dessus, si elle nous dit encore quelque chose, c'est ce que font tous les masques mortuaires, qui étaient très répandus à l'époque, que maintenant, bon, on n'ose peut-être plus trop regarder, parce qu'elle nous confronte à une interrogation essentielle sur la mort, l'amour et la mort, Eros et Thanatos.
L'inconnu de la Seine, paru chez Gallimard, signé Didier Blonde, et puis l'inconnu de la Seine, signé Guillaume Musso chez Kamenevi, la différence étant que là, il y a des digressions qui sont faites autour, et on est dans une totale fiction de ce roman de Guillaume Musso. Merci d'y être venu à ce micro, bonne journée.
Merci à vous.
Voici Jérémy Crédit.
Yes.
L'inconnu du bord de Seine.
Exactement. Ce matin sur France Inter, petit voyage dans le temps, on se retrouve en 1987 avec le démon de minuit, ça va être chaud.
Bon, j'ai une tome avec des bites.
On entend beaucoup parler des manifestations de chasseurs en ce moment. On pointe du doigt leur méthode dite de chasse traditionnelle, alors que ce sont des protecteurs de la nature. Oui, ils protègent la nature comme la Chine protège les Ouïghours. Tenue verte, paquet de cigarettes, bouteille de rouge. Un renard dans ma trajectoire, je tire une cartouche. Ah putain, merde, c'était quelqu'un en train de courir. Il était roux ce jogger, c'est confusant pour un chasseur. Schizophrène avec un fusil. Fan du début de Bambi. Moi j'aime la taxidermie. Buter des perdrix.
C'est vrai qu'il y a un côté relaxant dans la torture. Ah oui, attacher un pigeon vivant à une pancarte, c'est tellement mieux que le yoga. Peut-être le faire plus bas.
Dans le ciel, un vol d'hirondelles, je les dégomme, je les dégomme. Les politiques veulent pas prendre de risques, faut que ça vote.
Faut que ça vote. Ouais.
J'aime ces fils qui étranglent les grives en haut des branches. Ça fait partie de nos valeurs, faites pas vos râleurs. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans la vénerie? Chasse à court, chasse à court. C'est qu'un cerf poursuivi, qu'on maltraite jusqu'à l'agonie.
Chasse à court, chasse à court.
Ouais, c'est ça qui nous rallie, la panse pleine après une beuverie.
Chasse à court, chasse à court.
V'là Raymond en treillis, il est raide après 20 demi. Prêt pour la chasse tradie. J'ai un petit pigeon qui frétille au bout d'un manche. C'est de l'humour de chasseur, Hugo Clément dans le viseur.
Ouais, parce que les chasseurs, ils aiment pas trop qu'on les titille.
Ah non, non, ils envoient des lettres de menace ou des petites balles de fusil à ton domicile. Donc moi, vu la chanson du jour, à mon avis, ma boîte aux lettres, ça va devenir une cartouche. Mais j'ai pas peur. D'ailleurs, je vous donne même mon adresse. Notez bien les chasseurs. Éric Zemmour, 89 avenue Charles de Gaulle, 92 200 Neuilly-sur-Seine. Et chargez bien, y a pas de problème. Attention, dernier refrain. Envoi de basse. Moi, ce que j'aime, c'est les proies qui fuient. Moi, j'aime les proies qui... La nature, c'est ma vie. L'écosystème, on le préserve ainsi. L'écosystème, on pèse, on est un lobby.
Et j'ai pas de choré pour la fin.
Yeah ouais.
Et Jérémy, on te retrouve ce dimanche au Folies Bergère et le 20 décembre au Sébastopol de Lille.
Oh oui.
Si ça peut te rassurer, Jérémy, j'ai eu un formidable message sur les réseaux sociaux sur The Artist, quelqu'un qui m'a écrit en disant peut-être que si vous étiez plus gentil avec les chasseurs, vous auriez fait un meilleur audimat. Et ben, changez rien.
Il dit qu'il voit pas le rapport.
Ne regardez pas les chasseurs.
Je vois pas.
Mais
oui. Je vais chercher.
Guillaume Musso est notre invité jusqu'à 12h30 pour l'inconnu de la scène. Ça sera et on continuera après les infos. Avec les lacs de vous d'être Morgane Guérignan, Guillermo Guise, Jérémy Crédit, Tanguy Passion, Roger Zappé, pardon tout à l'heure, Daniel Morin, qui s'appelle Morgane, et Guillaume Musso est notre invité.
Rebonjour.
Avec l'inconnu de la scène, avec cette demoiselle que l'on retrouve, sauve, entre guillemets, des eaux. C'est pas Boudu sauver des eaux, c'est l'inconnu sauver des eaux en plein milieu de la scène. Elle est enceinte, mais elle est vivante. Elle s'échappe, retrouvée nue dans la scène. Elle s'échappe avec une espèce de pyjama que les hôpitaux de Paris ont pu lui prêter. Simplement, elle a une montre et un bracelet. Ce détail est important dans... dans l'intrigue aussi, la manière dont ce bracelet est fabriqué également, la provenance de la montre aussi, mais je ne dévoile rien dans la mesure où ça c'est vraiment dans les premières pages. Ce qui est présent aussi, c'est cette mise en abîme, je dis, cette auteur qui, comme par hasard, va dans le sud, qui est votre coin, qui est votre spot. Donc, vous et Raphaël, à quel point êtes-vous
proche?
Non,
alors j'ai écrit des romans où je me mettais davantage en scène, effectivement.
Que là?
Que là, oui, voilà. Là, c'est pas vraiment le personnage principal. Il est là. Je trouvais marrant d'écrire une enquête qui est à la fois menée par une flic qui, elle, voit ça à travers, effectivement, une espèce de logique policière, et un romancier qui, lui, voit ça comme s'il vivait un petit peu dans un roman, avec son côté un peu plus rêveur, quoi, un peu plus affectif, un peu plus amoureux.
La musique est très présente dans votre roman. Alors, la musique classique est présente. Évidemment, le Schubert dont nous parlions tout à l'heure, puisque l'inconnue est une pianiste. Hein, donc, évidemment, elle est cette musique est présente. Toutes les musiques sont... Je parlais des Beatles. Enfin, il y a une espèce de bande-son. Est-ce que ça correspond à ce que vous écoutiez en écrivant?
Alors, c'est pas ce que j'écoute de la musique hein, en écrivant. Pas toujours, mais en tout cas, c'est toujours la même musique depuis 20 ans.
Ça marche.
Autour de Philip Glass, de Keith Jarrett. C'est des musiques, en fait, qui m'accompagnent dans l'écriture et que je n'écoute qu'au moment où j'écris. Et donc il y a une sorte de réflexe pavlovien où je sais que quand j'écoute Glass ou Jarrett, c'est une période d'écriture.
Et c'est pour vous mettre dans un état?
Ouais, c'est vrai. Si, ouais. Si.
Vous êtes à table de 9h à 20h.
Ouais, alors.
C'est beaucoup quand même ça.
Oui. Alors, mais en comptant la documentation, les lectures. C'est rien ne se fait sans passer par
le travail. Guillermo?
Mais non, c'est justement ça, quoi. Il y a jamais de moment où vous découragez, où vous dites, en fait, il est 14h, j'en peux plus, j'ai rien à faire.
Si, ça arrive.
Ça, c'est au moment où tu te réveilles, toi. Quand
bien sûr.
À 14h, tu dis, j'en peux plus.
Non, mais c'est-à-dire, il y a des moments où, vous restez devant votre écran, il se passe rien. Et donc là, effectivement, vous avez pas vraiment.
Et vous forcez à rester devant l'écran, ça, je veux dire.
Ouais, parce que vous dites qu'il y a toujours un moment où, quand même, ça va finir par. Arriver, mais c'est vrai qu'il y a des jours, voilà, voire deux jours, trois jours de suite où vous rentrez, vous avez pas écrit une ligne, vous avez glandé et
vous culpabilisez ou pas?
Et c'est, forcément, oui, et c'est compliqué d'expliquer ça à l'extérieur quand on vous dit alors ça a avancé. Ben non, mais pourquoi vous allez bosser? Oui, mais voilà, il y a une part irrationnelle et parfois certains jours vous avez espèce de feu sacré, vous pouvez écrire un chapitre en état un petit peu de transe.
Et là, on fait des heures sup.
Et là, il faut.
Il faut pas lâcher le
profiter
stylo.
De ça.
Et le stylo, le stylo ou le clavier,
vous avez l'écran.
Un aller-retour constant entre stylo, clavier, puis après on imprime, on corrige. C'est écrire, c'est réécrire, réécrire, donc les deux.
Pardon, et vous réussissez à avoir une vie sociale un peu dense dans ces moments-là ou pas?
Non, quand même. Enfin, il y a je vais quand même déjeuner, je vais quand même m'aider. Mais quand vous...
Non, mais parce que le soir, sortir le soir et se dire qu'il faut s'y remettre le lendemain quand on est déjà dans une période de un passage précis...
Il peut y avoir...
Il y a 3-4 mois...
Ah, mais je le plains pas.
Il peut y avoir 3-4 mois où vraiment, vous faites rien d'autre que ça, et d'autres où c'est un peu plus lâche.
Quand on arrive à la maison, quand on parle à ses enfants, à sa compagne, est-ce qu'on arrive à cloisonner ou est-ce qu'on continue à être presque à s'inspirer d'une phrase dite par l'une ou l'autre?
Alors là, pour le coup, les enfants vous ramènent très vite à une réalité immédiate. Ouais. J'ai faim, soif, une histoire, je veux faire pipi, j'ai renversé ça. Voilà. Et donc, là, vous n'avez pas le temps. Et ça, ce côté, et c'est très sain, ça. Ça aide à débrancher, d'un seul coup. Et les enfants sont plus forts que la fiction. Pendant longtemps, dans les interviews, je disais, écrire des romans, c'est comme écrire des livres. Écrire des romans, c'est comme avoir des enfants, 9 mois.
De gestation.
Et quand j'ai eu des enfants, je me dis, non, mais tout ça est une vaste connerie. Et absolument pas. Donc, maintenant, je prends plus cette pause. Les enfants, c'est pas des romans.
Cette métaphore, on l'entendra plus dans votre bouche.
Voilà.
L'inconnu de la scène chez Calman Levy, c'est signé Guillaume Musso. Et voici Monsieur Tanguy Passion.
J'ai toujours admiré les stars du sport. Pas parce qu'ils font du sport, hein. La plupart du temps, ils sont en maillot avec des logos partout. Donc si je veux voir de la pub, je mets Koh-Lanta. Non, pour leur mental. Moi, si j'avais la même puissance vitale au moment où je fais mes chroniques, je serais le numéro un de l'humour. Après, je déchirerais ma feuille en hurlant « J'ai tout niqué » avant de faire trois fois le tour du studio en courant et lancer ma chemise à Guillaume Musso qui déclarait « En plus, elle sent bon. Décidément, vous avez tout mettre. » Enfin, un truc simple, quoi. Donc, il faut le mental, mais aussi les capacités. Moi, j'ai fait deux fois du tennis, dont deux fois où j'avais oublié ma raquette. Bon, si je me retrouve face à Nadal, même avec un mental d'acier, à la première balle, il me transperce le corps. Après, je ne dis pas qu'un trou en plus, ça ne sert à rien. On respire mieux, on peut ranger son iPhone. En soirée haute, on vous accueille en héros. Le couteau suisse, on vous appelle. Mais bref. Et hier, j'ai lu sur le site de France Info l'histoire d'Iron Bibi. Alors déjà, quand quelqu'un met Iron devant son nom, on devine que ça rigole pas. Iron Man est très puissant. Iron Maiden, on n'est pas sur du folk. Hein, quand moi j'étais au collège, le gars qui avait un patch Iron Maiden sur sa veste en jean goûtait à une tranquillité relative. Ouais. Hein, alors que moi qui portais un t-shirt Pet Shop Boys, j'ai pris cher dans la face. J'ai tellement connu de main que j'aurais pu devenir voyante. Donc là, Iron Bibi, on se dit que ça doit être du lourd. Et en effet, Bibi est l'homme le plus fort du monde. Il fait 1m90 pour 180 kilos. Et là, même le docteur Cohen, le nutritionniste, n'oserait pas lui dire « Mec, il va falloir rééquilibrer tes lipides dans le cadre de ton alimentation. » Étant donné qu'il fait 63 cm de tour de bras. C'est énorme. Ça équivaut à avoir une tête d'Anne Sinclair qui sort du brushing dans chaque bras. Hein, Iron Bibi est burkinabé. Il vit au Burkina Faso, pays situé au sud du Mali. Parfois, Amadou et Marianne se baladent. Ils se retrouvent au Burkina Faso et là disent « Mais où est passé le chien guide ?» Burkina Faso, qui littéralement signifie, figurez-vous, « Pays des hommes intègres hein, ». D'ailleurs, on n'y a jamais vu Patrick Balkany. On le sait non, pas, mais pas chaque Patrick. Nom de pays a une signification. Monaco, par exemple, signifie « Pays des vieux trop bronzés qui ont du brosouf ». Et Belgique, pays des humoristes systématiquement débauchés par la radio publique française. Bref, samedi, Iron Bibi était en Écosse pour la compétition mondiale de soulever de bûches. Wow. C'est un truc d'Écossais. Les types lancent des troncs d'arbres, lèvent des bûches. Enfin, là-dedans, il n'y a plus une forêt. Hein. Vous lâchez 15 Écossais dans un Center Park. Le soir, il reste juste une baignoire à bulles. Les Écossais sont la pire chose qui soit arrivée à la biodiversité. Si vous trucidez tous les Écossais, à part Charlene Spiteri du groupe Texas qui est trop mimi, bon, vous sauvez la planète. Alors attention, quand on dit bûches, on pense feu de cheminée. Pas là. Hein, ce qu'ils appellent bûches, ce sont d'énormes troncs. En 2005, un Lituanien en avait soulevé un de 228 kilos. Il avait été découpé par un castor à qui on avait injecté du Red Bull couplé à de l'EPO et du sang d'Arnaud Ducret. La bestiole était à bloc. Hein, le record tenait depuis 2005. Et samedi, Iron Bibi l'a battu en levant au-dessus de sa tête une bûche de 229 kilos. Sans difficulté apparente. Hein. Moi, je lève une ramette de papier A4. Je suis déjà là à traiter la mère de tout le monde. Lui, il soulève sa bûche, la repose et retourne à ses activités comme labourer le sol avec un doigt ou découper vivante une vache des Highlands, ce qui écrit toi tu vas te retrouver sur l'insta d'Hugo Clément. Puis Bibi a enfilé un t-shirt, en fait une tente ketchup à deux places, hein, 72 places plutôt, la spéciale famille de Mormons, hein, t-shirt sur lequel était écrit sa devise ne limite pas tes défis mais défie tes limites. Oui, wow. Alors, le sportif a toujours un proverbe à la con que si vous l'appliquez ça marche pas, comme crois en tes rêves. Voilà, alors, tu parles, moi mon rêve à 16 ans c'était de me baigner dans une piscine de billets de banque avec Anna Nicole Smith. Résultat, elle est morte. Et ici à Inter, je croise que des adeptes de la décroissance. Donc, hein, merci la vie. Donc, Bibi a battu le record de bûches. Et cette semaine, donc, il est rentré au Burkina Faso, mais en star. La foule l'attendait à l'aéroport. Il a serré dans ses bras des fans hein, qui sont morts. Hein, parce que le pays est fier. Le pays est très fier. Le ministre des Sports, un monsieur qui s'appelle Dominique Nana, qui est non-binaire malgré lui, en fait, hein, a déclaré le drapeau burkinabé a triomphé. Et c'est ça qu'il faut retenir. Devant Iron Bibi, qui soulevait son trophée. Alors, un gros truc en bronze. Mais bon, quand tu soulèves une bûche de 229 kilos, tu peux tout soulever. Il y a Teddy Riner qui attend devant la station de taxi vite. Tu lui dis, monte sur mes épaules, petit tout, je t'emmène à Roissy. Alors, le trophée représente un homme soulevant une grosse bûche. Alors, visuellement, bon, c'est atroce. Hein, quand Laurent Wauquiez fait du VTT en legging, à côté, ça ressemble à un tableau de Monet. Bon, ce qui est toujours le cas avec les trophées. Hein, combien d'ados arrêtent le ping-pong après avoir gagné une coupe en toc posée sur un plastique imitation marbre? En fait, il devrait y avoir que des coupes superbes représentant Pierre Ninet nu ou alors avec un slip minuscule. Et si je vous parle de la puissance du mental, c'est que j'ai vu la vidéo d'Iron Bibi en plein lever de bûche. Et ben dans son regard, on lit la volonté. Il a l'œil du tigre. Quand moi, au moment de faire la même chose, j'aurais que l'œil du chaton de type européen. Parce que devant le tronc d'arbre, je me dirais pas, vas-y Iron, t'entends. Crois en ton étoile et explose tes défis. Je me dirais au fond, le fait de lever une bûche a-t-il réellement une finalité? Quelle belle brochette de con ces Écossais. Allez, je vais me balader dans Glasgow avec un peu de bol. Je vais croiser Charlene Spiteri chez Quick. C'est pourquoi Iron Bibi est l'idole de tout un peuple et que la France s'en fout de moi. J'aurais dû soulever des bûches. Vraiment, cette idée de chauffage par le sol, ça aura flingué ma vie.
Merci, ton invitation.
Tanguy, on te retrouve le 15 octobre en Charente, à Ruffec.
Yes. Et Charline Spittori sera bientôt dans Taratata.
C'est pas vrai. Invitez-moi, Nengui.
Mais vous, ah ben c'est fait.
Voilà. D'accord. Un duo?
Non, dans le public.
Non, mais je tente.
Tu fais comme Guillermo Guise, tu te mets dans un coin et puis t'attends de subir une vanne. Voici la culture vue par Leïla, cadeau vous dédié.
On va parler de la décision prise par la chanteuse Lana Del Rey concernant la préparation de son prochain album. Ce n'est pas lié à la musique. Quelle décision a-t-elle prise ?
Qu'il y ait zéro impact à la couche d'ozone.
Non.
Ah. C'est lié à son image ?
Non, c'est lié à son état d'esprit, à son humeur.
Elle chantera nu ?
Non.
Elle chantera quand en une prise ?
Non.
Elle chantera chez elle ?
Non
elle
plus.
Elle va pas dans le studio, tout est chez
pas
elle.
Filmé, pas
elle a
pas
décidé clip. De prendre une décision importante pour éviter que...
Qu'aucun autre artiste n'ait pris.
Que le monde actuel cesse de l'envahir.
Ah bah un truc zéro carbone, sans doute.
Ou... Non,
pas de réseaux sociaux.
Absolument, elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux pour pouvoir travailler sereinement, parce qu'elle en a marre à chaque fois des messages qu'elle pourrait lire éventuellement et qui pourraient venir la perturber. Ouais. Je sais, ça peut ressembler à de la pause. Mais en tout cas, c'est la décision qu'elle a prise. Vous, la pratique des réseaux sociaux, Guillaume Musso, elle s'apparente à quoi? Puisque vous avez un lien très très fort avec vos lecteurs qui viennent vous rencontrer dans les salons, dans les librairies quand vous êtes en signature, mais oui, est-ce non, que vous poursuivez jusque-là?
Non, elle est assez légère, mais elle est au moment de la sortie d'un livre, c'est très très enrichissant de voir les premiers retours de lecture. Il y a des gens qui achètent le roman, qui le lisent dans la nuit et qui le matin, effectivement, du premier jour, vous font un compte rendu. Oui, voilà.
Il y a des gens qui ne lisent que vos livres, d'ailleurs.
Oui, alors.
Ah oui, depuis des 15 années.
Mais voilà. Mmh. Et des lecteurs, comme ça, qui sont assez.
Mais ça, c'est positif. Mais quand c'est pas positif.
Oui. Non, mais je suis assez lointain de ça. Donc voilà, c'est surtout au moment de la sortie d'un roman, il n'y a jamais aucun élément sur ma vie privée.
Oui. Vous vous préservez.
Bah oui, bien sûr.
Quel est le sujet du prochain film de Christopher Nolan?
La vie privée de Guillaume Musso.
non, pas vraiment. Ça se passera pendant la guerre, c'est historique.
C'est l'histoire vraie?
Ah, ouais. C'est
l'invention d'un...
Du charme.
Enfin, pendant quelle ère? La bombe atomique?
Absolument, c'est la conception, l'invention de la bombe atomique. Ça a été inventé par Oppenheimer, scientifique donc considéré comme le père de cet engin absolument désastreux.
Il y avait Einstein aussi.
C'est devenu une marque, Christopher Nolan. Tout ça pour vous parler des réalisateurs.
Oui.
Certains ont adapté donc Gilles Bourdos a adapté et après il y a un réalisateur sud-coréen aussi qui a adapté Seras-tu là.
Oui, absolument.
Je dirais pas le titre, j'arriverai pas à le prononcer. C'était en 2016. Oui. Vous rêvez de qui comme réalisateur pour adapter une de vos œuvres?
Jérôme Salles.
D'accord.
Comme ça, c'est quoi, lui? J'aime beaucoup et qui est, que je connais bien et qui a ce juste
qui avait réalisé
équilibre.
Un film sur Cousteau, hein?
Oui, Cousteau, il fait les Largo Winch, il a fait Zoulou, un polar.
C'est lui qui fait La Jeune Fille et la Nuit?
Incroyable. C'est pas lui qui fait la série tirée de La Jeune Fille et la Nuit, mais Jérôme Salles, il a à la fois le souci du public et de faire aussi une œuvre artistique, et donc c'est ces deux toujours, on en revient toujours au divertissement intelligent.
Et vous êtes déjà parlé? Vous êtes
ça? On se parle, on se voit et peut-être quelque chose à annoncer un jour.
Oui. Ouais. Mm-hmm. Tous vos romans sont adaptables. Tous vos romans sont adaptables.
Pas tous, mais il y en a en fait qui sont, il y en a qui sont davantage adaptables en film, d'autres en série, d'autres qui peuvent être délocalisé pendant longtemps. Il y a un de mes romans qui s'appelle Central Park, qui se passe en 24 heures à New York. Une fois, on m'a proposé d'appeler ça Parc Monceau. Ça m'a moins fait rêver.
Bois de Boulogne.
Et vous dites non, c'est-à-dire que vous méfiez de la manière dont on peut se servir de la marque, entre guillemets, Guillaume Musso, en disant voilà.
Chaque semaine, presque, il y a une demande d'un producteur, mais vous voyez très bien que c'est juste pour
mettre votre nom générique,
sécuriser une option sur un roman qui est best-seller, mais sans avoir un projet artistique derrière.
Est-ce que certains vous demandent à acheter les droits avant même que le livre ne soit sorti?
Ouais, c'est arrivé. Ouais, les gens demandent à le lire un mois avant, non, mais demandent à le lire avant
quand même.
Qu'il sorte, ou alors parfois vous pouvez en parler. pouvez parler de ce que vous êtes en train d'écrire dans une émission et recevoir un coup de fil d'un producteur qui vous dit « Ah mais moi, ça m'intéresse alors que... »
Ah, ces producteurs télé, ils sont prêts à tout, c'est incroyable. Allons-y, justement, tiens, on parle de divertir et d'apprendre. Saisis artiste, si...
Le jingle, je vais le faire à la bouche.
Bon, bah c'est pas...
Bah ouais, mais ça va être embêtant pour la suite, quoi.
Ah oui, ça va être très gênant pour la suite, oui.
Si on n'a pas le générique, on n'a pas d'autre son, mais c'est pas grave parce qu'on va parler des masterclass qui ont lieu donc tous les soirs à 20h sur Culture Box avec un mentor différent en présence des artistes. Ce samedi, demain à 20h40 en direct sur France 2, ils seront 9 sur scène.
Il n'en restera plus que 3 et le jury. Il n'en restera plus que 6, pardon.
Ah oui, ah, 6,
non, il y a 3 qui sont éliminés.
Non,
tu m'as fait peur. Tu sais que je suis sensible.
Non, on a jingle. Allez, jingle. Ah, quand même. Rock'n'roll! Gaëtan Roussel ouvrira avec les 9 artistes qui ensuite eux chanteront leur création originale aussi après celle de Gaëtan Roussel. Et puis Pascal Obispo, Bruno Bédabar et les Black Eyed Peas seront présents pour chanter avec ces artistes et faire des reprises. Mais Pascal Obispo et Bruno Bédabar avec Gaëtan Roussel seront dans le jury. Mmh. Et en fait, pour tout vous dire, c'est Pascal Obispo qui m'a appelé, qui m'a dit mais moi je qui sentais bien puisque j'ai fait cette confidence sur les réseaux sociaux. Sur Instagram que l'émission n'avait pas rencontré suffisamment de public pour une émission de télévision. 1 million, c'est bien pour un concert, c'est pas bien pour une émission de télévision. Et Pascal m'a dit mais on va pas laisser tomber. Nous sommes des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. On aime cette émission. On va venir t'aider. Et là, j'ai reçu plein de messages d'artistes qui vont venir. Donc, on a pris cette
décision. Tu veux que je vienne chanter,
mais... Alors, on a dit des artistes. On a dit des artistes.
J'ai vu ça, la générosité.
Alors que le succès d'audience est au rendez-vous de Culture Box avec Leïla à 20h tous les soirs. Et
hier, on était.
On transmet, justement. On parle de transmission.
Des masterclass pour échanger, changer les pratiques. Vous savez, vous connaissez?
Je connais.
Ouais. Ah, d'accord. Eh bien, merci. Hier, on était avec Ladislas Chola, le metteur en scène que vous connaissez, metteur en scène de théâtre, qui a aussi mis en scène, par exemple, la comédie musicale Résiste.
Résiste de France Gall.
Et puis, depuis quelques années, c'est lui qui met en scène les concerts de Julien Clerc. Il s'est aussi attaqué à ce travail-là avec la famille Chédid. Et Ladislas Chola, il faut le dire, c'est une présence lumineuse. C'est d'une beauté folle, déjà, Ladislas Chola. Il a charmé tout le monde en 2 secondes. Il a quelque chose de complètement hypnotique. Et il venait parler vraiment de son métier. Et je suis convaincue qu'il a ouvert plein de portes. Il a débranché des trucs un peu compliqués. Et il essaie de t'expliquer notamment sur comment est-ce qu'on appréhende la scène.
La scène, il ne faut pas la vivre comme un lieu de danger, de « oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Il faut la vivre comme le lieu où, enfin, on va vous écouter dans votre journée. Et vous allez pouvoir vous exprimer et aller au bout de ce que vous avez à dire. Ce qui est magnifique, c'est un endroit très protégé, le plateau. C'est un endroit privilégié. Et il ne faut plus le vivre comme une zone difficile. Il faut le vivre comme une zone de « waouh ».
C'est joli.
Et à la question « comment on fait pour maîtriser son trac avant de monter sur scène ?», Ladislas a une réponse assez simple.
Chacun ses trucs.
Il y a ses trucs, mais lui, il lui considère qu'il faut s'intéresser à ce qu'on raconte, à son texte. Parce que les mots sont toujours là. La chanson est première avant tout. Et finalement, si on est très concentré sur ce qu'on dit, on ne peut plus penser au reste. Il n'y a plus de place pour le reste. Et ça, c'était complètement fou comme conseil, parce qu'ils étaient tous en découverte, je crois que pour le prime de demain.
Il a dit quoi ? Assumer les mots que vous avez écrits.
Absolument, il faut les porter. Ouais. Et justement, question d'un des candidats de The Artist, c'est quand j'ai une chanson triste à chanter, la première fois je l'ai chantée un peu avec le sourire et les gens se sont dit, c'est un mec qui raconte l'histoire d'un type qui s'est fait larguer, mais j'y vais avec le sourire. Et il explique qu'il était tellement content d'être sur scène pour chanter cette chanson qu'il souriait, mais la chanson était triste. Alors, que faire ? Réponse de Ladislas.
Très franchement, sur un concert, sur une chanson triste, en effet, je l'interpréterais triste. Moi, personnellement, c'est en dirigeant en fait la personne, j'irais vers ça. Mais vous êtes dans un exercice particulier, qui est un exercice face à un jury, où en fait, vous devez montrer que vous êtes là, que vous êtes content d'être là, etc. Mais je pense que la prochaine fois, si dans ton répertoire, il y a une autre chanson triste, je pense qu'il faut l'interpréter triste.
Voilà, il n'y a que ça, des chansons tristes. Donc, c'est Joseph Kamel qui sera très triste la prochaine fois. Passez le week-end prochain.
C'est ça, et qui était arrivé en tête des votes et des notes samedi dernier.
Et ce soir, on sera avec Gaëtan Roussel, absolument.
Que l'on retrouvera en direct samedi soir. Donc, ce soir, 20h sur Culture Box, le canal 14 de la TNT, et samedi soir en direct 20h40 sur France 2. pouvez pas rater samedi soir The Artist à 20h40, c'est juste avant Guillermo Guise sur France 2 si vous voulez avoir un repère des choses.
Et c'est un partenariat France Inter.
Votre écriture, Guillaume Musso, vous voulez aussi la destiner aux livres pour enfants, vous en avez envie en tout cas.
Oui, de plus en plus, je raconte des histoires à mes enfants qui sont assez critiques, donc ils sont très très bons sparring partenaire pour ça, et je me dis
comme voilà, un éditeur quoi.
Mais oui, voilà, et je me dis que si un jour voilà, il y en a une qui passe au filtre de mes enfants, j'aimerais bien effectivement la raconter à d'autres.
Des excuses, une excuse peut-être, s'il y en avait qu'une à retenir.
Petite
Daniel
excuse,
Morin.
Désolé pour vous, invité Guillaume Musso. Ce matin, vous pensiez venir au masque à la plume. Vous êtes retrouvé face à ce qu'on pourrait appeler le casque et l'enclume, alors. C'est pas pareil, c'est un autre niveau de culture, mais franchement, croyez-moi, c'est beaucoup plus sympa.
Merci Daniel, merci Guillaume Musso.
Merci beaucoup.
Ouais, merci tout le monde, merci Morgane, Leïla.
Je préfère bien votre émission au masque et la plume.
Voilà,
oui.
voilà,
vraiment, merci.
Ça c'est dit. L'inconnu de la scène chez Calman Lévy. On se retrouve demain dans la bande originale avec Audrey Lamy et Izzy Higelin. Tout de suite, écarné campagne de Philippe Bertrand. Pardon pour le retard.